Et on voit là surtout que l'évolution du langage a préparé, a accompagné l'évolution de l'analyse des relations humaines. Avant, on ne les analysait pas. Il y avait la tragédie. Le plus psychologue de nos tragédiens, c'est Racine. Mais on n'analysait pas l'intériorité, on ne posait pas les questions. Et donc, le changement du mot « abandon » intervient à peu près en même temps que s'épanouit en littérature le « je ». Le « je » devient sujet dans la littérature, bon, avec Rousseau, avec d'autres. Et il intervient parce que l'élaboration de l'intériorité humaine, c'est-à-dire de ses relations, s'est trouvée autorisée. Par quel détour ? Ce n'est pas le lieu d'en parler ici, mais ça pourrait être un autre sujet. Mais vous me direz, donc on a parlé beaucoup de ban, mais où est passé le don ? Parce que donner à ban, il y avait quand même le don, il y avait donné. Alors, peut-être on pourrait retrouver le don et se dire que l'abandon n'est pas si négatif que ça. Le don, abandonné, donné à ban, finalement, c'était donner à la communauté, remettre dans le circuit de la nature, si vous voulez, remettre, renvoyer au grand large, c'est-à-dire pas du tout tuer, mais redonner à la liberté. Et je pense que ça pourrait être la source d'une réflexion intéressante. Mais le côté négatif est bien entendu que quand on abandonne quelqu'un, on le fait sortir des relations interhumaines qui avaient été ébauchées. Que ce soit donner un nom à un enfant ou d'autres choses comme ça, on l'éjecte du langage, on l'éjecte d'une relation particulière pour le remettre dans le flux commun. Alors, quel don ? On peut se dire que ce n'est pas génial quand même. Hein. L'abandon, c'est un sacré cadeau. Mais enfin, on va voir qu'il pourrait y avoir pire. Et d'ailleurs, il y a pire. Je vous prépare tout de suite. Il y a pire. Donc, si je synthétise d'abord, parce que j'espère que ce que j'ai dit jusqu'à présent est clair. Si ce n'est pas clair, vous manifestez. Pas trop bruyamment, mais enfin, vous pouvez manifester. Donc, l'abandon à l'époque moderne, est devenu un manquement à la parole inter-individuelle, un manquement à une relation, à un lien qui avait été ébauché, élaboré, donc un manquement à la relation humanisante primordiale, et dont l'archétype est évidemment la relation adulte-enfant. Mais ce n'est pas la seule. Tandis que, anciennement, l'abandon, c'était un consentement, un lâcher-prise, un consentement à ce que la parole dite et le lien qu'elle avait établi soient annulés et que la personne ou la chose ou le bien ou la terre abandonnée retombe dans la collectivité. Voilà. Alors, voilà ce bref historique. Ma question maintenant va être, est-ce qu'on peut trouver confirmation de ces enseignements du langage dans d'autres domaines de la vie ? C'est-à-dire, peut-on passer du mot « abandon » à la réalité du fait, l'abandon ? Et donc, pour ce faire, j'ai travaillé dans deux domaines. D'abord la mythologie, ensuite la littérature. Alors, je voulais n'aborder que la mythologie, parce que je me disais que c'était bien suffisant, qu'il y avait déjà pas mal de bagarres en mythologie. Vous voyez ce que Freud a fait de la mythologie. Je pensais que j'avais largement de quoi nourrir cette intervention. Et en fait, je me suis aperçue d'une chose intéressante, c'est que dans la mythologie, les abandonnés sont des garçons. Que font les filles ? Où sont-elles ? Je vous ai dit tout à l'heure que la mythologie, c'est l'histoire officielle de nos origines, tandis que la littérature, je la définirai ici, dans notre contexte, plutôt comme l'histoire intime de l'humanité, de nos relations, de nos émotions, de notre vécu. Eh bien, les filles, elles sont plutôt présentes dans l'histoire intime que dans l'histoire officielle. Alors, chacun en pense ce qu'il veut, mais c'est une observation que je n'avais pas prévue a priori. Vous voyez, et ma communication en deux parties est devenue une communication en trois parties, et j'ai dû ajouter la littérature. Alors, l'abandon et les enseignements de la mythologie, deux enseignements, ou même trois, un troisième assez dramatique. Premier enseignement, les abandonnés, les anciens abandonnés deviennent des fondateurs. Et donc, on va le voir, il est à nouveau question de langage, de parole et de loi. Et on est tout à fait en phase, en harmonie avec l'évolution du langage que je viens de vous retracer. Alors, ces paroles peuvent être des paroles dites, fondatrices ou des paroles non dites destructrices. Donc, quand je dis que les fondateurs sont d'anciens abandonnés, je vais prendre deux exemples, un surtout, puis un autre à titre de comparaison. Tout le monde connaît Moïse, dont Freud s'est servi dans Moïse et le monothéisme, totem et tabou. Moïse, prophète du christianisme et du judaïsme, était donc le fils d'une famille juive esclave et il s'est fait abandonner aux eaux du Nil sur un frêle petit panier qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui des Moïses. C'est devenu un nom commun. Et il aurait été recueilli par une princesse qui justement était la fille du pharaon. C'est bien fait quand même. Hein. Et ça se passait au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et Moïse est devenu le grand législateur que l'on sait. Il a reçu les tables de la loi. Vous voyez le lien entre l'abandon et la fondation. Le lien aussi entre la parole loi et l'abandonné. L'abandonné devient dépositaire, gardien de la loi nouvelle et il fonde une nouvelle civilisation. On comprend pourquoi ce lien entre l'abandonné et la fondation. Lorsqu'on a été abandonné, c'est-à-dire détaché très violemment et sans consentement de ces liens, lorsque les paroles fondatrices de reconnaissance qui nous avaient fait naître à l'humanité sont forcloses, qu'est-ce qu'il reste pour vivre ou pour survivre? Il reste à recommencer, partir de zéro, créer, inventer et donner. Et là, vous voyez, on retrouve le don dont je vous disais qu'il était un peu évacué, et je pense qu'il est important de le retrouver. À titre de comparaison, un autre cas mythique que je pense tout le monde connaît, les fameux jumeaux Romulus et Rémus, dont Romulus sera le créateur de Rome, et donc ça remonte dans l'histoire, ça se passait au 7e siècle avant Jésus-Christ, abandonnés, nourris par une louve, et donc qui seront Romulus et non pas Rémus, fondateurs de Rome. Et là, à nouveau, nous avons le lien avec la fondation et la loi. C'était le premier point. Mon deuxième point,